Être poussé à bout en eau, 1. Toutes les conditions doivent être remplies. Le 28 février 2016. Pasteur Brian Kozurek. Ce matin, nous allons commencer l'étude du sermon de frère Branham intitulé Être poussé à bout, qu'il a prêché bien après le sermon Le Signe. En fait, il a prêché Le Signe le matin et Être poussé à bout, le même soir. Dans notre étude du sermon Être poussé à bout, vous découvrirez pourquoi ce sermon devait être celui qui suit le message Le Signe. Voyez-vous, frère Branham nous a enseigné que d'abord, nous devons entendre la parole. Ensuite nous devons reconnaître ce que nous entendons. Et enfin une fois que nous avons reconnu ce que nous avons entendu, alors nous devons agir sur cette parole de Dieu. Et être poussé à bout, c'est la reconnaissance qui vous place dans l'atmosphère correcte, afin d'agir sur ce que vous avez entendu concernant le message Le Signe. Vous n'arriverez jamais à l'endroit où vous recevez et appliquez Le Signe sans avoir la bonne approche de celui-ci, qui crée la bonne atmosphère pour que Le Signe soit appliqué. Et le pousser à bout crée une atmosphère où vous placez votre entière confiance en Dieu, pour qu'il fasse ce qu'il a promis de faire. Sinon vous allez être perdu et laissé derrière pour les jugements. En commençant à lire, nous verrons que les premiers paragraphes sont plus ou moins des préliminaires pour la congrégation locale, pour leur faire savoir qu'il a été très occupé et qu'il va les quitter pour un petit moment. Mais avec cela à l'esprit, je voudrais commencer à lire un extrait du sermon de frère Branham intitulé « Être poussé à bout » qu'il a prêché le 1er septembre 1963. Lors du service du soir qui suivait son service du matin sur Le Signe. Restons debout maintenant pendant que nous inclinons la tête. Seigneur Jésus, nous croyons seulement. Tu nous as demandé de croire tout simplement, et nous croyons maintenant. Et nous te remercions et te louons pour ce que nous avons déjà entendu et vu, cela ancre notre foi. À présent, nous te remercions pour cette nouvelle occasion de venir prêcher à ceux qui sont dans le besoin. Et je te prie, ô Dieu, de répondre à nos besoins, ce soir, conformément à ta promesse. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. De ce soir, nous sommes très heureux du privilège que nous avons de venir dans ce tabernacle une fois de plus avec l'évangile du Seigneur Jésus ressuscité. Et j'étais un peu en retard. Tout à l'heure, j'ai eu un cas urgent venant du Michigan. Le Seigneur a donc fait une chose merveilleuse pour nous sur le champ. Oh là là, comme il connaît tout et manifeste cela, nous n'avons pas à le lui dire. Il sait, vous voyez, il sait exactement la chose à faire. Et ainsi, nous en sommes très reconnaissants. Les gens ont roulé toute la journée pour arriver ici. Nous en sommes donc très reconnaissants. À présent, n'oubliez pas l'enregistrement passe-t-il? Oh, sister, je vois. Frère Branham parle à frère Neville, NTE. N'oubliez pas les réunions de la semaine prochaine, le mercredi soir, le prochain dimanche matin ainsi que le dimanche soir. Si vous êtes dans les parages, et que je sais que l'on sera certainement heureux de vous avoir ici. Et maintenant, priez pour moi comme je vais continuer ma route pour me rendre ailleurs, et j'espère retourner bientôt. 3. Je voudrais vous remercier vous tous pour votre gentillesse et pour les souvenirs, les choses que vous avez faites pour moi. Un frère d'une petite église en Géorgie m'a envoyé un complet neuf. Et ces gens, c'est vraiment merveilleux. Et je voudrais remercier ces gens du Kentucky avec qui j'ai passé mes vacances la semaine passée. Et j'aimerais remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous là-bas. Pour ses glorieuses et puissantes mains que nous avons vues. Pour ce qu'il a fait. 4. À présent, nous espérons vous revoir très bientôt. aussitôt que je pourrai revenir par ici en allant à New York pour la réunion. Ce sera au Stone Church avec le frère Vic. Ça commencera, je pense, le 12 novembre. Nous serons ici pendant quelques jours avant cette date. Ensuite, nous repasserons en allant à Shreveport, en Louisiane avec le frère Jack Moore. Ce sera au Thanksgiving, la semaine du Thanksgiving, Thanksgiving Day, festivité américaine, qui se tiennent chaque année le 4e jour de novembre en commémoration de la fête organisée par les pères pèlerins à l'occasion de leur première récolte sur le sol américain en 1621. NDT où nous serons à Shreveport. Sester au tableau d'affichage, je pense, là, dans les annonces. 5 et ensuite, nous comptons nous retrouver avec certains de nos amis du Sud après Noël. Et nous serons à Phoenix en janvier. Et en attendant donc les appels d'outre-mer, nous pourrons ainsi préparer les réunions d'outre-mer. On y travaille présentement. Ce dernier mois, Frère Border s'assure la correspondance pour un tour du monde complet que l'on va commencer aussitôt que nous pourrons être prêts. Mais nous devons attendre que certaines conditions soient remplies. Avant de poursuivre, j'aimerais commenter ce qu'il vient de dire, car cela pourrait presque être un sermon en soi. Il parle de réunions qu'ils organisent pour d'autres pays, mais ces réunions dépendent toutes d'une seule chose, que les conditions soient bonnes pour que ces réunions aient lieu. Souvent, dans les églises chrétiennes, les gens se font une fausse idée du travail missionnaire. Ils utilisent des écritures comme celle de Luc, chapitre 10, où Jésus dit, de il leur dit, la moisson est terre grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et donc il recrute tous ceux qu'il peut dans leur église qui veulent y aller. Il recrute des poseurs de briques, des ouvriers qualifiés et non qualifiés, des électriciens, des tôliers, des charpentiers. Et par le simple nombre de volontaires, ils ont maintenant assez de personnes de leur propre église ou d'église affiliée pour commencer ce qu'ils appellent un réveil, quelque part. Et les personnes excitées à l'idée de se rendre dans un endroit exotique du monde, sont attirées à y aller, non pas parce que Dieu les a appelées, mais parce que le prédicateur les a invités. Le prédicateur fait tourner le globe terrestre posé sur son bureau, il ferme les yeux, fait tourner le globe autour de lui, et pendant qu'il tourne, il pose son doigt sur le globe et quand il s'arrête, il ouvre les yeux et regarde où son doigt est tombé sur le globe, et il a maintenant la réponse de Dieu sur l'endroit où elle est pour sa prochaine mission. Il se peut qu'il n'ait mis procède pas exactement de cette façon, mais j'ai voulu être un peu dramatique pour faire passer mon message. La plupart du temps, Dieu n'est même pas présent dans leur travail missionnaire, et je le sais parce qu'il n'y a aucun fruit réel à montrer pour tous leurs problèmes. Je connaissais un couple qui partait en croisière aux Caraïbes, et qui essayait de trouver une église locale dans l'un des ports où ils débarquaient et passaient quelques jours. Et s'ils pouvaient trouver une église à fréquenter, ils appelaient cela un voyage missionnaire. Maintenant, ils ont peut-être trompé les membres de leur église et peut-être même l'Internal Revenue Service, mais ils n'ont pas trompé Dieu une seconde. Et frère Branham a prêché un sermon à ce sujet. Il l'a intitulé « Rendre service à Dieu sans que cela n'ait mis soit sa volonté ». Mais remarquez que nous venons de lire que frère Branham a dit qu'il devait attendre les conditions, parce que les conditions doivent être bonnes, sinon il est inutile d'y aller. Et vous Néhémie devez pas y aller parce que vous voulez faire un travail de mission. Vous Néhémie devriez pas y aller parce que vous voulez y aller. Vous Néhémie devriez pas y aller parce que d'autres veulent que vous y alliez. Vous Néhémie devriez y aller que parce que Dieu vous a dit d'y aller. Les conditions doivent donc être réunies pour que les réunions soient un succès. Il doit y avoir une anticipation que Dieu va faire quelque chose dans ces réunions, pour que de telles réunions aient lieu. Parce que si Dieu n'est pas présent dans les réunions, alors il est certain que ces réunions Néhémie sont que les efforts de l'homme. Les conditions doivent donc être remplies avant de partir, sinon les réunions seront un échec. Parce que Dieu a dit dans Proverbe 16:25 « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Et il a également dit dans Esaïe 55:8 « Car mes pensées Néhémie sont pas vos pensées, et vos voies Néhémie sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Par conséquent, la toute première condition qui doit être réunie est la condition de votre propre cœur. Car Dieu exige que la condition de votre propre cœur soit correcte avant même que vous n'ayez mis prier pour un malade. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai appris cette leçon. Je rentrais chez moi après des réunions dans les Black Hills du Dakota du Sud, et nous nous sommes arrêtés dans un hôpital de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, où le père d'un des frères qui voyageait avec nous était paralysé dans son lit d'hôpital. Il avait deux disques dégénératifs dans le bas du dos et était paralysé du côté gauche de son corps. Nous nous sommes arrêtés à l'hôpital en passant devant Sioux Falls et sommes entrés dans l'hôpital pour lui imposer les mains et prier pour lui. Ayant entendu les sermons de frère Branham sur la démonologie, j'ai expliqué à l'homme comment fonctionne la prière pour les malades, comment le démon s'en allait, et comment il revenait en force quelques jours plus tard, et qu'il pensait qu'il était de retour sur lui, mais que c'était simplement le corps physique qui se débarrassait des toxines et des choses accumulées dans le corps, et que Néhémie ne devait pas laisser sa foi s'échapper quand cela se produisait. C'était en 1977. J'avais 24 ans, et je savais tout sur la guérison, car j'avais entendu un ou deux sermons à ce sujet. Vous vous rappelez peut-être ce que c'était que d'être jeune, et comment nous pensions tout savoir sur tout. Certains d'entre vous traversent peut-être cet état en ce moment même. Mais, par la grâce de Dieu, vous en sortirez en grandissant, ou bien vous vous casserez la figure en cours de route. Quoi qu'il en soit, j'ai instruit le père des croyants comme frère Branham l'avait fait, et je lui ai dit que nous allions prendre quelques minutes de silence pour qu'il fasse un examen de conscience et qu'il clarifie avec Dieu tout ce qui n'est pas correct dans son cœur et qui pourrait empêcher notre prière d'être exaucée par Dieu. Vous savez, l'Écriture nous enseigne dans Psaume 66:18 « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur Néhémie m'aurait pas exaucé. » Nous avons donc attendu qu'il ait fait son examen de conscience. Puis j'ai imposé les mains sur lui comme le commande Marc 16. Et après avoir imposé les mains sur lui, j'ai commencé à prier. Immédiatement après avoir prié pour lui, j'ai eu l'impression d'être sale, comme si je venais de pécher en présence du Seigneur. Je me suis donc excusé de la chambre d'hôpital et j'ai marché dans le couloir à la recherche d'une pièce vide où je pourrais entrer et me mettre à genoux devant Dieu pour prier. Je n'ai trouvé qu'une salle de bain. Je suis donc entré. J'ai verrouillé la porte. Je me suis mis à genoux devant Dieu et j'ai demandé à mon père ce qui n'allait pas. Pourquoi j'avais l'impression que je venais de commettre un péché aussi grave? Sa réponse est revenue et il a dit, « Tu lui as demandé de confesser ses péchés, mais tu n'as pas confessé les tiens. » J'ai immédiatement su que je n'avais pas rempli les conditions, et je me suis immédiatement rappelé comment frère Branham avait dit à sa femme de dire à l'avocat qu'il n'était pas à la maison, puis était sorti pour faire croire que ses paroles étaient correctes. Mais quand il est allé prier pour l'enfant, Dieu n'a pas voulu entendre ses prières. Il a donc dû rentrer chez lui, appeler l'avocat et lui dire ce qui s'était passé. Réalisant que j'étais dans le même état, j'ai alors demandé à Dieu de me pardonner, puis j'ai passé un certain temps en silence à sonder mon âme et j'ai découvert que j'avais une certaine attitude envers un certain frère qui entravait ma prière à Dieu. J'ai promis à Dieu de rectifier cette attitude à mon retour à Minneapolis. Vous n'avez mis pensé peut-être pas que votre attitude à l'égard d'une personne lui fait du tort. Mais votre pensée naturelle vous dit, elle mérite ce que je ressens à son égard et je peux donc avoir cette attitude. Car c'est ce que je pense de cette personne et elle mérite d'être considérée de cette façon. Par conséquent, vous pensez, je n'ai pas besoin d'être juste envers cette personne. C'est à elle d'être juste envers moi. Mais même si cette personne Naomi connaît pas votre attitude à son égard, le fait est que cette attitude Naomi lui fait peut-être pas de mal à qui, mais elle vous fait certainement du mal à qui. C'est à vous qui avez cette attitude, et c'est à donc vous qui devez rectifier le tir, pas cette personne-là. Peu importe l'excuse que vous vous donnez pour avoir une attitude quelconque, les autres sont responsables de leurs actes et de leurs attitudes, et vous êtes responsable des vôtres. Et l'attitude des autres envers vous ne vous blesse pas, mais c'est votre attitude envers eux qui vous blesse. J'ai donc confessé à Dieu mon attitude et je lui ai promis que je la corrigerai à mon retour de voyage. Puis le Saint-Esprit m'a dit, va et prie encore pour lui. Et je n'ai pas bougé. J'ai pensé, très bien. J'ai rectifié cette attitude avec Dieu. Alors maintenant Dieu va honorer le fait que j'ai déjà prié pour cet homme. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a dit, va à nouveau prier pour lui. Et je me suis figé sur mes genoux. Je n'ai comprené pas ce qu'il venait de me dire. Je pensais avoir effacé mon erreur et j'avais promis de rectifier l'attitude. Mais je n'ai comprenais pas que Dieu n'avait même pas entendu ma prière auparavant. Parce que j'avais gardé l'iniquité dans mon cœur. Mais maintenant mon cœur était purifié. Et je pensais que cela rendrait la situation rétroactivement acceptable. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Les conditions doivent être correctes. Alors que j'étais assis là, figé sur mes genoux, j'ai entendu sa voix intérieure me dire à nouveau, et cette fois beaucoup plus fort, va et prie encore pour lui. Je n'ai bougé toujours pas. Non pas parce que j'étais désobéissant ou rebelle à ce qu'il disait, mais j'étais toujours figé par la confusion, parce que je n'ai savais pas comment j'allais faire ce que Dieu venait de me dire de faire. Et puis cette voix est revenue. Et cette fois elle a secoué tout mon corps et m'a dit, va et prie encore pour lui. Puis j'ai dit, mais Seigneur, que dois-je lui dire? Et le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit, dis-lui la vérité. Et c'est toujours la meilleure et la seule façon d'être. Dites la vérité. Dites toujours la vérité. Quelles que soient les circonstances, dites la vérité. Parce que si vous n'aimez le faites pas, un mensonge mènera à un autre mensonge. Et puis un autre et un autre jusqu'à ce que votre histoire soit tellement étirée que personne n'aimé la croira. Je suis donc retourné dans la chambre d'hôpital et j'ai raconté à l'homme tout ce qui s'était passé depuis que j'avais prié pour lui. Je lui ai raconté comment, après avoir prié pour lui, je m'étais senti sale, et comment je m'étais levé et parti pour trouver un endroit où prier, et comment le Seigneur m'avait révélé que j'avais de l'iniquité dans mon propre cœur, de sorte qu'il n'entendrait pas ma prière. Je lui ai tout raconté. Puis après avoir ouvert mon cœur et lui avoir confessé mes propres fautes, je lui ai demandé si je pouvais à nouveau lui imposer les mains et prier pour lui. Il a dit, oui. Alors j'ai prié à nouveau et après avoir prié, j'ai su avec certitude que Dieu allait le guérir. J'en avais une si grande assurance. Parce que j'étais venu de la manière dont Dieu m'avait dit de venir. Et je savais que les conditions avaient été remplies de la manière dont Dieu voulait qu'elles le soient. Et maintenant qu'il est impossible que Dieu mente, je savais que Dieu ferait sa part, comme il avait promis de le faire dans sa parole. Et savez-vous que le lendemain, lorsqu'ils sont venus le préparer pour l'opération, ils ont pris des radiographies préopératoires et ont constaté que ses deux vertèbres étaient parfaitement normales et saines. Ils ont comparé les radiographies du vendredi avec celles du lundi matin qu'ils venaient de prendre. Et n'ont pas compris ce qui s'était passé. L'homme a donc raconté au médecin ce qui s'était passé la veille et ceux-ci lui ont dit qu'une hémie pouvait s'agir que d'un miracle. Ils l'ont donc fait sortir de l'hôpital et lorsqu'ils l'ont conduit à sa ferme, il a demandé s'il pouvait le déposer au bord de la route pour qu'il puisse marcher tout seul sur le long chemin qui mène à sa maison. Un jour un homme paralysé, le lendemain complètement guéri. Remplir toutes les conditions. Frère Branham a dit qu'ils attendaient que les conditions soient bonnes. Et Néhémie, pensez-vous pas qu'avec le ministère de la résurrection, qui a été promis, et le ministère du troisième pull, et les grandes réunions que nous attendons sous peu, Néhémie, pensez-vous pas que Dieu pourrait simplement attendre que les conditions soient bonnes? Voyez-vous, on nous promet dans Malachie 4 que le ministère de l'élite du temps de la fin Esther d'amener les gens à un endroit où leurs cœurs seront restaurés et prêts pour l'enlèvement. Malachie 4, 5, version roi Jacques, voici, je vous enverrai Élijah, Élie, le prophète, avant que vienne le grand et redoutable jour du Seigneur. 6 et il tournera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers leur père, de peur que Néhémie vienne et que Néhémie frappe la terre d'une malédiction. Et nous lisons dans 2 Chroniques 7h14 si mon peuple sur qui Esther invoquait mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Dieu a donc certaines conditions à remplir avant d'entrer en scène et de faire ce qu'il a promis de faire. 6 La foule Esther très nombreuse là-bas. Nous n'y saurons pas mettre ces gens dans des bâtiments. Nous les mettrons en plein air, sur un terrain. Et puis, parfois ils atteignent presque un nombre incroyable, parfois jusqu'à 500 000 personnes, ce qui fait un demi-million de gens pour un seul rassemblement. Pas le nombre de ceux qui assistent aux réunions pendant plusieurs jours, mais un seul rassemblement. Vous savez, habituellement, les évangélistes comptent le nombre de gens qui sont venus en 6 semaines. Vous voyez? Eh bien, nous comptons le nombre de ceux qui sont venus ce seul jour-là, en une seule fois. Ainsi, parfois, il manque des sièges où les installer, vous savez, vous êtes obligés de les mettre en plein air sur un terrain. Et nous devons choisir des saisons au cours desquelles il n'est mis, pleut pas et où il n'y a pas d'averse. Et ces pauvres gens se mettent là en plein air. J'ai vu des femmes rester là dehors avec leurs cheveux descendants comme cela. Des personnes bien habillées qui sont restées toute la journée sous la pluie. Assises là. Pendant que la pluie se déversait. Que les tonnerres grondaient. Les éclairs jaillissaient et que la tempête rugissait, et les gens s'appuyaient les uns contre les autres comme cela, se tenant juste là, attendant jusqu'à ce que l'on vienne prier pour eux. Vous voyez? Eh bien, vous savez, Dieu honore une telle foi. Certainement. C'est vous devez faire quelque chose que Dieu va honorer. Vous voyez? Montrez-lui. Les gens qui reçoivent facilement les choses, généralement ils n'aiment, font rien pour cela. Vous voyez? Vous devez. Le don Esther gratuit? C'est Esther vrai? Mais vous devez. Vous devez. 8 Il semble que, vous savez, comme on le dit, si vous êtes né avec une cuillère en argent, vous en avez déjà entendu parler, vous n'y saurez pas l'apprécier. Mais s'il vous faut travailler pour l'avoir, vous en apprécierez la valeur. Remarquez qu'il a dit, vous devez faire quelque chose pour que Dieu vous honore. C'est exactement comme ce que Jésus a dit dans Jean 14h12-13. Il dit que vous devez d'abord être un croyant, et si vous croyez Dieu indépendamment de ce qu'il veut que vous croyez, alors il honorera cela en vous donnant tout ce que vous demandez dans la prière. Dans son sermon, un.homme.inqui.fui.ela.face.de.l.éternel souligné 65-0217 souligné Jeff.inv5. N1 mercredi souligné, frère Branham dit 60 et puis, quand vous voyez, en ce jour maintenant, quand la parole de Dieu a fait ses promesses de choses que nous voyons arriver maintenant, alors nous avons la responsabilité soit d'y faire face, soit de nous en éloigner. Vous, Néhémie, pouvez simplement pas rester neutre. Vous devez y faire quelque chose. Dit. Quelque chose doit être fait. Vous, Néhémie, pouvez pas entrer par la porte de cette église et ressortir la même personne que quand vous étiez entré. Vous êtes soit plus loin, soit plus près de Dieu, chaque fois que vous entrez ou que vous sortez. 61 O. Comme c'est-il facile pour les gens d'esquiver ces choses. Et je veux qu'on pense à celle-ci. Quand on commencera la série de réunions officielles demain soir, je veux que vous remarquiez que, quand on se trouve devant quelque chose, s'il y a une question à ce sujet, il doit y avoir une réponse. Et également dans Esther, ce pas moi qui t'envoie, 24 janvier 1962 Phoenix, Arizona. USA 65 Vous, Néhémie, pouvez pas dire, oh. Il y a plusieurs sympathisants qui disent, oh. La Bible Esther vrai. Oui. Frère Branham. Je crois que la Bible Esther vrai. Mais vous savez. Juge Néhémie sait pas. Vous y êtes, mais je. Voyez. Vous y êtes. C'est Esther juste comme un vieux bouc qui se cogne la tête. Vous savez. Juste. Voyez, mais Chester bien. Mais vous savez, notre pasteur Néhémie croit pas cela. Chester tout à fait en ordre. Mais je Néhémie croit pas que ça soit possible. Voyez, vous y êtes une fois de plus. Voyez-vous? Vous Néhémie verrez jamais cela s'accomplir. Il vous faut agir. Il vous faut faire quelque chose. Et quand vous recevez la promesse de Dieu, que vous savez que c'est la promesse de Dieu et que vous agissez sur base de cela, vous verrez de puissants miracles de Dieu revenir dans l'église du Dieu vivant. C'est vrai. Vous verrez ça. Vous, Néhémie, pouvez pas prétendre aimer Dieu et rester là sans rien faire. Jésus l'a dit lui-même, dans Jean 14:15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et également dans Jean 14:23 Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Frère Branham dit dans son sermon Dieu.dévoilé souligné 64-0614 mjeff.inv9. N7 dimanche souligné 36 Il y en a plusieurs assis ici, un certain nombre. Qui était avec nous l'autre jour, quand il est revenu dans un tourbillon. Il nous l'avait dit la veille, frère Bankswood et les autres, quand il avait dit, ramasse cette pierre, lance-la en l'air et dit, ainsi dit le Seigneur. Vous n'allez pas tarder à voir. Et j'ai ramassé la pierre, au sommet de la montagne, je l'ai lancée en l'air, et, naturellement, en descendant, c'est ce qui a déclenché le tourbillon, voyez-vous, la succion qui a été créée. 37 Vous devez faire quelque chose, pour que quelque chose s'en suive. Jésus a pris un morceau de pain, et il l'a rompu, ensuite il a fait la multiplication à partir de ce morceau de pain. Il a pris de l'eau, il en a versé dans un vase. Élie a pris du sel, il en a mis dans un plat, il a coupé un morceau de bois, il l'a jeté sur l'eau. C'est quelque chose pour symboliser. Et d'avoir ramassé cette pierre et de l'avoir lancée en l'air, en descendant c'est ce qui a déclenché le tourbillon. Une conférence soulignée 25 novembre 1960 soulignée Shreveport. Là. USA 43 alors. Moïse a crié à l'Éternel et l'Éternel a dit, lève-toi et avance. Et quand Moïse s'est avancé droit et qu'il a mis son pied dans l'eau. Et alors? La mer Rouge s'est ouverte en se retirant. Israël a traversé vers une grande victoire. L'Écriture effectivement le dit de cette façon, Exode 14:15 l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi me cries-tu ? Parle aux enfants d'Israël, pour qu'ils aillent de l'avant. » Moïse a donc reçu l'ordre de parler, puis le peuple a reçu l'ordre d'avancer, mais si Moïse n'était pas entré dans l'eau et que celle-ci s'était ouverte, le peuple n'aurait jamais avancé. Vous devez donc faire quelque chose pour montrer que les conditions ont été remplies. L'influence soulignée 14 novembre 1963 soulignée New York. New York. USA 105 Vous devez vous rappeler que Dieu vous observe à chaque heure. Il veille sur vous pendant que vous dormez. Eh bien, je pense que la raison pour laquelle les gens font ces choses, c'est-à-dire qu'ils Néhémie sont pas conscients de sa présence. Voyez. Mais pourtant, il est là, que vous le pensiez ou pas. Il voit chaque attitude que vous affichez, et chaque geste que vous faites. Il sait tout à ce sujet. Mais nous devons nous en rendre compte. 65-0426 Prouvant.sa.parole souligné los.angeles.ca lundi souligné 28. C'est-à-dire l'attitude qui, toujours, produit les résultats. C'est-à-dire l'attitude que vous adoptez à l'égard de Dieu. 29. Ici une femme a touché son vêtement, et elle a été guérie d'une perte de sang. Un soldat lui a craché au visage et lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Et il n'a senti aucune vertu. 30. C'est-à-dire la façon dont vous abordez la chose. L'attitude. C'est-à-dire ça qu'il faut. Et c'est-à-dire de ça qu'il s'agit ce soir. Cher ami, il faut avoir l'attitude qui convient. Nous sommes, et nous croyons que nous sommes dans la présence de Jésus-Christ. Mais c'est-à-dire votre attitude qui produit les résultats. La mécanique est-à-dire ici. Et la dynamique aussi. Si vous pouvez simplement vous mettre en mouvement, Dieu fera le reste. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et, éternellement souligné 24 août 1954 souligné New York, USA 41 voyez-vous? Vous devez simplement prendre un petit démarrage. C'est tout ce qu'il vous faut. Que votre foi se mette une fois en marche. Dieu fera le reste. Hébreux chapitre 4 souligné 1er septembre 1957 soir souligné Jeffersonville, Indiana. USA 28 maintenant. Nous remarquons donc ici qu'il a dit. Il y en eut en effet qui, après avoir entendu la parole, se révoltèrent. Certainement. Ils se lassaient chaque fois qu'ils arrivaient à un endroit où une épreuve de force se présentait. Que faisait-il donc? Il lâchait prise, puis devenait là et cherchait à rentrer. Pourquoi ceci m'est-il arrivé? Paragraphe 29 Chose étonnante. Ce matin, après avoir prêché là-dessus de toutes mes forces, beaucoup sont venus à l'hôtel et se sont posés cette question, pourquoi ceci m'arrive-t-il? Vous voyez comment ça marche? Cela passe par-dessus la tête des gens. Les gens sont simplement les mêmes. Paragraphe 30 Jésus dit, vous avez des yeux, mais vous n'y pouvez voir. Il disait cela aux disciples. Paragraphe 31 Il disait, voilà. Maintenant tu parles clairement. Maintenant nous croyons. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise quoi que ce soit, car Dieu te le montre. Paragraphe 32 Il dit, vous croyez maintenant? Après tout ce temps? Voyez? Paragraphe 33 Vous Néhémie, devez pas poser des questions à Dieu sur quoi que ce soit. Car les pas des justes sont ordonnés par l'Éternel. Et chaque épreuve qui vous est apposée est destinée à vous éprouver. La Bible dit qu'elles sont pour vous plus précieuses que l'or. Ainsi, si Dieu a permis que quelques légères afflictions vous surviennent, souvenez-vous que c'est pour votre correction. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être châtié par Dieu et être mis à l'épreuve, éduqué comme un enfant. Il n'y a pas d'exception. Chaque fils qui vient, et ses afflictions sont faites ou suscitées pour voir quelle attitude vous prendrez. Voyez-vous, c'est Dieu sur ce terrain d'épreuve. C'est tout ce que cette terre est. C'est un terrain d'épreuve, là où il essaie de vous éprouver. Les mémoriaux de Dieu éprouvent au fil du temps souligné 18 août 1957 souligné Jeffersonville, Indiana. USA 115. Chaque fois qu'un coup de vent frappe un arbre et le bouscule de part et d'autre, il n'est mis fait que dégager ses racines pour pouvoir les enfoncer davantage et acquérir une meilleure assise. Chaque fois que la maladie frappe votre maison, chaque fois que l'épreuve frappe votre maison, chaque fois que les voisins disent du mal à qui de vous, ça n'est mis fait que vous secouer, ça n'est mis fait que vous libérer complètement afin que vous puissiez vous enfoncer et prendre un meilleur appui sur le rocher éternel de la parole inébranlable de Dieu. C'est la manière que Dieu le fait. Il envoie ses épreuves pour vous tester, vous éprouver, vous secouer et vous donner une nouvelle assise. Pour terminer, frère Branham a dit dans son sermon être poussé à bout, et en attendant donc les appels d'outre-mer, nous pourrons ainsi préparer les réunions d'outre-mer. On y travaille présentement. Ce dernier mois, frère Borders assure la correspondance pour un tour du monde complet que l'on va commencer aussitôt que nous pourrons être prêts. Mais nous devons attendre que certaines conditions soient remplies. À Pierre 1, 6 c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, c'est afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Remarquez que Pierre nous parle de l'épreuve de votre foi ou de la mise à l'épreuve de votre foi. C'est ainsi que Dieu développe l'image en nous. Par les épreuves et le test. Et ces épreuves et ce test ont pour but de nous approuver. Vous n'aimez pas tout ce travail avec le négatif juste pour le laver. Vous faites tout ce lavage et vous suivez le processus pour développer cette image qui est dans le négatif, dans le but de la transformer en positif. Nous voyons donc que l'épreuve de votre foi est exactement cela. Votre foi est mise à l'épreuve. Dieu vous place dans des situations à cause de votre foi pour voir comment vous allez utiliser votre foi. Rappelez-vous de Daniel dans la fosse aux lions et des trois enfants hébreux dans la fournaise ardente. Ils possédaient tout la révélation de l'horreur. Et Dieu les a donc mis à l'épreuve. La révélation que vous possédez est votre foi. Ainsi, pour que vous l'utilisiez et l'appliquiez, Dieu permet que l'affliction et la souffrance viennent à votre rencontre, parce que vous défendez votre foi. Ainsi, la souffrance est le résultat de la foi que vous possédez déjà, et elle vous met dans une situation où vous devez vous fier uniquement à votre foi pour vous en sortir. C'est exactement ce qu'ont vécu Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel et Moïse, Abraham et tous les prophètes de Dieu. Chacun a dû passer par une épreuve de sa foi, une épreuve de sa révélation. L'épreuve est venue à cause de la révélation, et il a ainsi appris à attendre Dieu et, au temps convenable, lorsque Dieu a de nouveau mis sa foi à l'épreuve, la révélation a donné de l'énergie à sa propre foi. Votre foi vous est donnée pour être utilisée. Mais vous n'y pouvez pas l'utiliser dans n'importe quel but. Ce doit être le choix de Dieu et selon son temps à lui. Mais croyez-moi, Si Dieu vous a donné cette mesure de foi, alors il vous mettra sûrement à l'épreuve et fera en sorte qu'elle vous soit utile. Alors quand vous entrez dans les épreuves de votre foi, lâchez prise et laissez Dieu faire. Par conséquent, Dieu utilise ces épreuves si nous en avons besoin. Là où nous avons un problème avec les tests et les tribulations, c'est lorsque nous n'aimons, comprenons pas pourquoi nous les subissons. Lorsque nous n'aimons, comprenons pas l'issue de nos épreuves, nous développons des perceptions erronées de ce qui se passe, et si nous n'en voyons pas le bon côté, nous en verrons sans doute le mauvais. Notre mauvaise compréhension de ces épreuves n'est-elle pas la faute de l'épreuve ou de la tribulation réelle que Dieu a choisie pour que nous l'endurions? Mais la mauvaise perception vient plutôt de notre faiblesse pendant la tribulation, pour comprendre que Dieu y est présent. Dans un tel cas, nous n'ayons parvenons pas à comprendre la nature, la puissance et le fonctionnement ou le but de la tribulation et, par conséquent, nous la jugeons uniquement en fonction de son apparence extérieure et de notre propre perception de ce qui se passe. Lorsque cela se produit, nous pensons de manière erronée à ce qui se passe, alors que nous devrions nous réjouir de l'épreuve, car elle travaille en nous quelque chose que Dieu juge nécessaire que nous ayons. Chacun de mes frères, regardez comme un sujet de joie, complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jour V. Jour de victoire souligné 21 avril 1963 souligné Sierra Vista, Arizona, USA. Paragraphe 103. Quand tout semble mal à qui tourner, Dieu vous donne une épreuve. Il a confiance en vous. Il n'a pas à vous pouponner. Vous n'êtes pas une plante de serre, un hybride. Vous êtes un vrai chrétien. Dieu vous donne un test pour voir ce que vous ferez à ce sujet. Amen. Paragraphe 104. Ce n'est-ce pas étonnant que Pierre ait dit, ces fournaises de l'épreuve? Eh bien, regardez-les comme un sujet de joie. Elles sont plus précieuses pour vous que l'or. Souvent, nous tergiversons, oh! Eh bien, si seulement je... Eh bien, ce... Eh bien c'est quelque chose que Dieu vous donne à surmonter. Il sait que vous le ferez. Il a placé sa confiance en vous. Et c'est ce que nous dit également la traduction vieste de l'écriture de Jacques 1:2. Dans ce dernier temps, vous devez vous réjouir constamment d'une joie qui s'exprime par une exubérance triomphante. Bien que, pour un temps, à l'heure actuelle, s'il en est besoin, vous ayez été rendu douloureux au milieu de plusieurs sortes d'épreuves, afin que l'approbation de votre foi, laquelle foi a été examinée par des épreuves dans le but d'être approuvée, cette approbation étant beaucoup plus précieuse que l'approbation de l'or qui périt. Inclinons notre tête en prière. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, janvier 2022. Traduit de l'anglais en français par frère Serge Ngoy, sergentngoy@yahoo.fr, Moanda, Gabon.